Espoir. La RDC vient de tripler les taux des redevances du cobalt et du coltan qui passent de 3,5% à 10% conformément au nouveau code minier. La décision est contenue dans un arrêté signé mardi par le ministre des Mines. Elle intervient après un décret du Premier ministre daté du 24 novembre qui déclare le cobalt, le germanium et la colombo tantalite substances minérales stratégiques en RDC. Comment analyser cette décision de la RDC? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Mabolia Yenga, il est coordonnateur national du programme d'appui à la bonne gouvernance du secteur minier Promine en sigle. Bonsoir monsieur Mabolia Yenga.
Bonsoir.
Maître Elodie Mouzigiroua, elle est avocate et elle est mandataire à mine. Elle est au téléphone. Bonsoir Maître Elodie Mouzigiroua.
Bonsoir Alain.
Et Israël Moutala, journaliste, il est analyste politique et économique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
La RDC vient de tripler les taux de redevance du cobalt et du coltan qui passent de 3,5% à 10% conformément au nouveau code minier. La décision est contenue dans un arrêté signé mardi par le ministre des Mines. Les détails avec Daniel Tambinzoni.
Le décret du Premier ministre daté du 24 novembre 2018 qualifie de minerais stratégiques trois minerais, le cobalt, le germanium et le coltan. Mais avant ce décret, l'augmentation du taux de la redevance était déjà décidée et retenue dans le nouveau code minier de la RDC, code promulgué par le président de la République au début de l'année en cours. Les compagnies minières internationales opérant en RDC, à l'instar du Suisse Glencore, du Chinois China Molybdenum et du Britannique Randgold n'ont pas pu empêcher la mise en œuvre de ce code minier revu. L'ancien code est jugé trop déséquilibré car il accorde beaucoup d'avantages seulement aux miniers. Le décret du Premier ministre justifie cette hausse d'une part par la détermination du gouvernement congolais de tirer plus de bénéfices de ses richesses du sous-sol et d'autre part, ces trois minéraux sont d'une importance capitale aujourd'hui dans nombreuses applications dont les filières industrielles de la haute technologie, les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et les domaines militaires. Cette décision intervient dans un contexte où le cours du cobalt a baissé, venant de plus de 75 000 $ la tonne métrique il y a plus de 3 mois pour actuellement 55 000 $ américains. Aussi, cette décision tombe peu de temps après la suspension par Glencore de l'exportation du cobalt de la mine de Kamoto en raison d'un niveau très élevé de radioactivité.
Merci à vous, Daniel Tambinzoni. Monsieur Mabolia Yenga, coordonnateur national du programme d'appui à la bonne gouvernance du secteur minier Promine en sigle. Nous venons de suivre cet élément, n'est-ce pas, ces reportages de Daniel Tambinzoni. La RDC augmente la redevance sur les cobalt qui passe de 3,5% à 10%. N'est-ce pas la suite logique par rapport au nouveau code minier?
Oui, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que c'était ça qui était dans la loi qui est passée, et donc le ministre n'a fait que appliquer les décisions qui ont été prises au niveau de la loi, on l'a mise en application.
Voilà, c'est une suite logique, l'émission est aussi pédagogique. Pour quelles raisons la RDC a décidé, à travers ses codes miniers, de tripler la redevance sur le cobalt?
C'est pas à travers le code minier, il faut faire attention. On a estimé, à un moment donné, qu'il y avait certains produits, compte tenu de leur utilisation sur le marché, sa position, les réserves qu'il y avait, qu'elles présentaient des aspects d'avoir une valeur, comment dirais-je, beaucoup plus supérieure que la normale. Et dans ce contexte, on a identifié le cobalt, le germanium et le troisième produit, c'est le coltan, comme étant stratégique, parce que lorsque vous voyez aujourd'hui, par exemple, le cobalt dans son utilisation, demain avec les voitures électriques et tout ça, ça a une importance capitale. Le coltan, évidemment, avec tout ce qui est capaciteur, donc dans les téléphonies, c'est important. Le germanium, c'est utilisé dans le laser qu'on est en train de faire. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants. Et il faut pas perdre de vue que stratégique, il faut aussi voir les consommateurs. C'est-à-dire que quand vous allez aux États-Unis, on va vous dire tel produit est stratégique pour nous. Quand vous allez en France, il y a de ces produits aussi qui sont stratégiques. S'il se fait que ce produit est produit chez nous au Congo, on regarde maintenant quelles sont les quantités que nous avons, combien on a, pendant combien de temps, et on estime que bon, si c'est stratégique, donc c'est stratégique aussi pour nous.
Voilà, vous dites que ce n'est pas à travers les codes miniers, mais les codes miniers, c'est les soubassements juridiques.
Non, c'est à travers le code minier. On n'a fait qu'appliquer, c'est-à-dire que le code minier parlait de... Le ministre avait le pouvoir de demander au président de classer certains produits en substances stratégiques. Ce qui a été fait, proposé au président, qui a classifié certains produits en stratégique, et sur base de ça, comme le code minier prévoyait d'augmenter à 10% la redevance sur ces produits, c'est ce qui s'est passé.
Voilà, il est aussi convenu, n'est-ce pas, que chaque fois qu'il y aura embellie sur le marché du cobalt, la RDC augmentera la redevance. Vous ne pensez pas que cette logique mettrait, n'est-ce pas, mal à l'aise les partenaires de la RDC dans ces domaines? N'est-ce pas une exagération de
non,
la part de la RDC?
On a fixé à 10%. C'est pas à chaque fois qu'il y aura une augmentation, on va commencer à se précipiter, parce qu'il faut voir. Regardez le cas maintenant, comme vous venez de le dire.
On ne peut pas aller au-delà des 10%.
Pour le moment, c'est à 10%.
On ne peut pas aller au-delà des 10%.
On peut aller au-delà, tout comme on peut diminuer. Mais ça, ce n'est pas automatique. Embellie, là, c'est quoi? Que ça monte à 12 ou à 13. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Ce n'est pas automatique. C'est quelque chose qui doit être bien regardé. C'est le contexte du marché. Il ne faut pas faire quelque chose et puis après, ensuite, vous produisez des effets contraires. Donc, c'est tout un cheminement, tout un raisonnement qui a été fait pour classer ces minerais. Et ce sera aussi la même chose, un raisonnement, des calculs, des appréciations pour pouvoir soit diminuer ou augmenter. Mais ce ne sera pas du jour au lendemain à chaque fois qu'il y a embelli. Embelli, c'est quoi exactement? Il faut que ça monte à 10%, à 5%. Donc, ce n'est pas automatique.
Voilà. Est-ce que l'inverse est possible, hein? Vous allez nous corriger si nous nous trompons. Sur le marché de la tonne du cobalt est estimée actuellement à environ 55 000 dollars, alors qu'il y a 3 mois, la tonne équivalait, n'est-ce pas, à environ 77 000 dollars. Étant donné que les cours ont légèrement baissé, peut-on aussi revoir la baisse, la redevance?
Ce qu'il faut regarder, c'est le coût de revient de produire une tonne de cobalt. Ce n'est pas de regarder le prix qui monte ou augmente. Le cobalt n'est qu'une production, comme disent les ingénieurs, fatale. Elle vient à la suite d'une production de cuivre où, à un moment donné, dans la flottation, on sépare. Donc, le coût de produire le cobalt, est-ce qu'il est vraiment intense, important ou pas? Donc, même si on diminue ou on augmente, ça n'influe pas sur le coût de revient de toute la production. Et donc... C'est toujours un bénéfice pour les compagnies minières, et donc il n'y a pas lieu vraiment à s'alarmer.
La RDC est le principal producteur du cobalt au monde, mais elle n'est pas, n'est-ce pas, le seul pays qui produit ces minéraux. Et ne peut-on pas envisager de mettre en place une sorte de cartel qui regroupe les pays qui produisent, n'est-ce pas, les cobalt, comme l'OPEP avec les pétroles?
Nous l'avons fait. Mais écoutez, le code minier aujourd'hui stipule que c'est l'entrepreneur, donc les compagnies minières, qui sont producteurs de la richesse et non l'État congolais. Donc pour pouvoir faire cela, il faut posséder les mines. Aujourd'hui, 80% de nos mines sont aux mains du secteur privé. Et donc eux ont d'autres considérations que les nôtres. Il faut donc qu'on se réapproprie d'abord nos minerais, par exemple à travers la GECAMINE, et à ce moment-là, on pourra le faire. Au demeurant, je vous rappelle que nous avons été des acteurs dans ce domaine dans les années 80. On avait un prix producteur cobalt avec les ECCM de Zambie et avec la GECAMINE. On se réunissait à Londres et on fixait le prix. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité. La GECAMINE produit pratiquement presque rien et les autres, ce sont des compagnies privées. Et donc, on n'a pas ce contrôle comme on avait.
Est-ce qu'il est possible de reconstituer la configuration datant de la GECAMINE, la GECAMINE qui appartenait entièrement à l'État congolais? Est-ce qu'on peut aujourd'hui reconstituer cette configuration?
Vous avez suivi, je crois, la conférence de presse du président Yuma. Il a parlé de la compagnie GECAMINE et des grandes ambitions qui sont tracées par le gouvernement. Et il a foi en rétablir la GECAMINE en géant qu'il était hier. Donc, il faut croire et toujours espérer que cela va arriver. Et à ce moment-là, il faut voir encore quelle sera la part de la GECAMINE par rapport à la production nationale pour voir si on pourrait commencer à influer ou pas. Donc c'est toute des affaires de réflexion et de calcul pour voir comment ça peut se passer.
Mais M. Mabouya, cette décision de la RDC de pouvoir augmenter la redevance ne plaît pas à tout le monde. Il y a des miniers qui ne sont pas d'accord. Comment la RDC compte-t-elle gérer ces miniers qui sont des partenaires importants, presque incontournables?
Nous vivons dans un monde global, globalisant, c'est-à-dire nous sommes global. La loi sur... il ne faut pas regarder seulement l'augmentation de la redevance. Voyez la loi dans son ensemble. Elle dit que, outre les 10% qu'on augmente, toute l'activité d'exploitation, de commercialisation, de transformation sera soumise à des conditions particulières. Donc, quelqu'un peut venir aujourd'hui, je suis impacté, il n'y a pas de problème, tu es impacté, quel est le problème? 10% ça ne veut pas. Mais pourquoi tu dois faire le transport à l'étranger? Pourquoi tu ne peux pas venir construire l'usine ici? Pourquoi tu ne peux pas faire ici? Donc il y a moyen de discuter avec le gouvernement et de diminuer, réduire les coûts et de se retrouver. Donc c'est ce à quoi nous voulons, c'est-à-dire que cette histoire où on produit et puis on exporte, peut-être aussi changé par un modèle où on produit, on transforme sur place. Et là, il y a des incitatifs qui sont donnés à ces compagnies minières pour pouvoir absorber ou pour les inciter vivement à transformer sur place, plutôt que de tout envoyer pour garantir les emplois à l'extérieur.
Merci, nous allons revenir à vous. Maître Elodie Mouzigiroi, avocate, vous êtes mandataire à Mines. Est-ce que vous comprenez cette décision de la RDC de tripler la redevance sur le cobalt?
Merci Alain.
Non, c'est Guy Maté.
Je crois que la décision... Pardon?
C'est plutôt Guy Maté.
Ah, merci. En fait, je crois que la décision, elle est compréhensible, elle est tout à fait légitime, parce qu'elle est une conséquence logique de la révision du code minier. Et je pense que ça rentre dans la même ligne, la même logique qui a amené, qui a conduit la révision du code minier, à savoir, comme vous venez de dire, les soucis pour le gouvernement de faire bénéficier à la population congolaise, aux populations congolaises, de leurs richesses. Alors, quant à la question de savoir peut-être l'incidence ou l'impact que cette décision pourrait avoir face aux investisseurs, c'est tout à fait normal, et c'était déjà prévisible dès la veille ou même après la promulgation du code, du nouveau code minier. Et bon, les investisseurs miniers estiment que cette mesure est prohibitive pour eux. Ils considèrent que c'est préjudiciable et que la conséquence est qu'ils vont faire où ils pourraient développer des mécanismes pour résister, pour peut-être ne pas payer, étant donné les motifs qu'ils pourraient présenter, qui pourraient aussi être légitimes de leur part. Mais toutes ces questions, je crois que, comme venait de le dire M. Mabouya, peuvent être discutées autour... peuvent être discutés entre les investisseurs et le gouvernement congolais. Et donc, comme vous venez de le dire, il ne faut pas considérer aussi la seule mesure ou l'augmentation du taux de redevance sur ces minerais qui sont stratégiques. D'ailleurs, ici, je rappelle que plusieurs autres pays avait déjà déclaré ces minéraux stratégiques, et vous comprendrez bien, comme il a été bien expliqué par mon prédécesseur, que c'est en raison de leur criticité, si je peux dire, en raison de leur caractère même non renouvelable, c'est des minéraux qui s'épuisent, c'est des minéraux stratégiques, et c'est tout à fait normal qu'un gouvernement, dans sa légitimité, puisse prendre des mesures pour encadrer et fixer peut-être certaines dispositions par rapport, notamment comme il a été fait par rapport à l'augmentation du taux de redevance. Et donc voilà ce que je peux dire pour l'instant par rapport à cette mesure.
Oui, madame, comme vous l'avez rappelé, c'est une mesure qui est jugée par certains miniers comme étant préjudiciable. Et vous avez dit que certainement qu'ils vont développer des mécanismes, n'est-ce pas, pour faire face à ces nouvelles réalités. Mais vous ne pensez pas que c'est les consommateurs finaux, les petits consommateurs qui finalement va payer les pots cassés? Parce que ces produits vont nous revenir sous forme, n'est-ce pas, des véhicules électriques, des téléphones, des ordinateurs. Est-ce que ce n'est pas les petits consommateurs qui vont payer finalement les pots cassés?
Non, moi je pense qu'on ne pourrait pas en arriver là. On ne pourrait pas en arriver là, d'autant plus que même, il faut qu'il y ait la bonne foi même du côté aussi des investisseurs. Et je pense qu'on peut leur présumer la bonne foi. Et parce que, en fait, comme on a évoqué la question de la baisse du prix du cobalt, c'est conjoncturel. Demain, ça peut arriver à 60, ça peut remonter jusqu'à 60, être dépassé jusqu'à à 70, mais ce n'est pas parce que cette mesure a été prise qu'ils vont dire que nous voilà, il faut arrêter l'exploitation, il faut arrêter les activités. Ce n'est pas ça qui va se passer. Et moi, je crois que de part et d'autre, dès lors qu'il y a cette bonne foi, il y a lieu de trouver des compromis, il y a lieu de continuer les activités sans que les populations, les communautés puissent être impactées par cette mesure.
Madame...
Donc, moi, je considère que c'était prévisible, ce n'est qu'une conséquence de la révision du code minier.
Voilà, ce n'est qu'une conséquence de la révision du code minier. Et l'objectif, n'est-ce pas, l'objectif ultime, c'est de maximiser les recettes de l'État. Mais il est reproché aux dirigeants congolais de manquer la volonté de faire profiter à la population la croissance issue, n'est-ce pas, de l'exploitation de ces richesses. Vous pensez qu'avec l'embellie, n'est-ce pas, du cobalt, et toutes ces mesures qui sont prises par le gouvernement, ces défis pourraient être relevés?
Oui, oui. Peut-être la question qu'il faut ici évoquer, c'est le souci aussi de la sécurisation des investissements. Donc il y a d'une part cette augmentation de la redevance, cette déclaration des minerais stratégiques. Oui, tout ça c'est bon, mais il faut, parce que pour que les redevances soient payées, il faut que les investisseurs soient en activité. Il faut qu'ils exploitent, il faut qu'ils vendent, et tout ça, il faut qu'ils soient dans des conditions qui leur permettent de bien le faire. Il faut sécuriser il faut qu'ils se sentent en sécurité.
Voilà.
Il faut l'amélioration du climat des affaires. Il faut la sécurité non seulement juridique, mais aussi tout ce que vous pouvez imaginer qui peut impacter l'investissement. Donc, pour ma part, ce n'est pas ça qui suffit en soi, mais il y a tous les ingrédients qui doivent être mis en place pour effectivement faire bénéficier les populations congolaises de leur richesse minérale.
Merci, nous allons revenir à vous. Israël Moutala, journaliste, vous êtes analyste politique et économique. Comment vous analysez cette décision d'augmenter, n'est-ce pas, la redevance sur le cobalt?
Bon, tout a été presque dit sur la question que cela va dans l'ordre normal depuis la promulgation du code minier par le chef de l'État en mars. Donc je constate que cette décision du décret sur les minerais dits stratégiques arrive 6 mois après. Mais bon, moi je dis, c'est vrai, le gouvernement avait dit dans sa politique qu'il voulait tirer le maximum de ressources de l'exploitation des minerais. D'accord. Mais il faut c'est son droit le plus légitime en vertu du principe selon lequel les États ont la pleine souveraineté sur leurs ressources naturelles afin notamment d'éradiquer la pauvreté. Nous sommes dans un pays de très très grande pauvreté et c'est une responsabilité de l'État d'essayer de faire bénéficier des richesses de son sous-sol à sa population. Et donc, c'est tout à fait normal que l'État essaie d'avoir le contrôle sur les ressources naturelles de son pays. Les pays arabes, pour la plupart, le pays producteur de pétrole, n'ont aucun génie. Si ce n'est qu'ils ont nationalisé les gisements de pétrole qu'avaient laissé les Occidentaux. En 1967, Mobutu avait pris une mesure courageuse. Voilà pourquoi il est considéré aussi comme nationaliste. C'est parce qu'il avait nationalisé l'union minière du Haut-Katanga, actuellement Gécamines. Donc c'était cette lutte de se réapproprier les ressources naturelles. Mais il faut faire attention dans cette lutte. Quel est le message qu'on envoie par exemple aux investisseurs? Parce que pour nous développer, on a besoin d'attirer un maximum d'investisseurs. On a besoin de transfert des technologies. Et il faut faire très attention. Et donc, aujourd'hui, la taxe, elle passe de 3,5 à 10%. D'accord. Maboli avait raison en disant ici que pour le cobalt, ce n'est pas très grave. Parce que quand vous regardez la plupart des études de faisabilité des grandes entreprises minières, le cobalt n'avait pas été pris en compte. Et donc, ils avaient tablé uniquement sur un coût de production du cuivre. Mais comme les gisements du Katanga sont des gisements dits bimétalliques, qui sont souvent le cuivre, le minerai de cuivre, s'accompagne souvent de cobalt, et donc c'était ça, c'était un bonus. Donc, mais fondamentalement, dans leurs études de faisabilité, le cobalt n'avait pas été pris en compte. Donc, l'impact sur leur modèle social, leur modèle économique, peut être relativisé. Mais j'attire quand même l'attention sur d'autres minéraux stratégiques, c'est le colombo tantalite. Donc, sur le coltan, jusque-là, c'est facile de taxer le cuivre, le cobalt à 10%, mais pour le colombo tantalite, donc c'est une production principalement artisanale. Donc, je crois que l'usine Alpha Mine sur le gisement de Bissier n'est pas encore entrée en production. Et donc, il peut, si on accroît une très forte pression fiscale, je pense que ça peut encourager la fraude, parce qu'aujourd'hui, l'usine qui a été construite de raffinage de coltan qui a été construite au Rwanda, c'est parce qu'il y a beaucoup de nos minéraux qui y vont là-bas en fraude, parce que, voilà, à cause de la pression fiscale. Mais il faut faire attention et savoir quel message on envoie.
Justement, on dit trop d'impôts tue l'impôt. Cette stratégie ne va-t-elle pas se révéler finalement contre-productive, dans ce sens que les miniers qui se sentent lésés pourraient non seulement, n'est-ce pas, écoutez, mettre la clé sous le paillasson, mais aussi ça peut aussi susciter, n'est-ce pas, ces phénomènes de fraude, comme vous venez de le dire.
Donc, pour les miniers, il n'y a aucune crainte. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait un investissement. Ils disent eux-mêmes, ils ont fait des usines qui valent, leur coût d'investissement, c'est autour de 2 milliards, 2 milliards 5. Ils ne vont pas arracher les usines et tout ça. Non, c'est fini. Donc, c'est peut-être pour les investisseurs à venir, tout simplement. Mais c'est pour les investisseurs à venir. Mais encore une fois, c'est légitime pour le gouvernement de tirer le maximum de ressources financières de ces ressources naturelles. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces ressources-là? Il faut absolument justement profiter de ces ressources là-bas pour essayer justement de changer de paradigme économique, de changer la structure de notre économie. Donc, notre économie telle qu'il est là, ça veut dire qu'on prend de minéraux bruts ou faiblement raffinés, on les exporte et puis avec ce modèle-là, on ne va pas se développer. Donc, il faut absolument créer de la valeur ajoutée sur place en transformant le cuivre dans toutes ses applications et le revendre avec une forte valeur ajoutée. Donc, tant qu'on n'aura pas ce modèle-là, faute notamment d'énergie, faute de technologie, faute de ressources humaines, donc on ne va pas s'en sortir. Donc, le gouvernement doit tirer le maximum de ressources. Donc, il faut une politique à court terme, à long terme. Donc, à court terme, on a beaucoup de ressources à partir de cette taxe, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut qu'on affecte cette ressource là-bas pour justement faire du bien-être, faire des routes, des hôpitaux et tout ça, mais surtout penser à l'économie de demain, une économie qui doit être à forte valeur ajoutée. Donc, si on n'arrive pas à ce modèle là-bas, on va rester sous-développé.
Cette émission est pédagogique. À quel moment certaines substances minérales sont considérées comme étant stratégiques et quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision?
Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la transition énergétique. et la transition énergétique, c'est un tournant mondial. Et le cobalt, notamment, joue un rôle important dans cette transition énergétique. Et donc, dans cette transition, le cobalt. Alors, il faut profiter justement de ça, de cette transition énergétique, pour tirer le maximum de ressources. Et donc, c'est tout à fait normal pour le gouvernement. Mais il ne faudrait pas absolument que ce signal là-bas puisse décourager l'investissement. Parce que le moteur du développement, c'est toujours l'investissement. Il faut que nous ayons assez de capitaux pour développer l'industrie minière. Parce qu'il y a encore beaucoup de potentialités qui ne sont pas exploitées. Mais on l'a vu aussi qu'il y a eu beaucoup d'exploitations minières qui n'ont presque pas rapporté à la République démocratique du Congo ou qui ont très peu rapporté. Ce qui fait que c'est qui demande à l'État de s'interroger. On a montré que le projet Sicomine a plus rapporté de ressources à l'État que d'autres projets miniers qui ont englouti des milliards. Et donc, le gouvernement, à bon droit, s'interroge sur le meilleur modèle économique, sur le meilleur modèle fiscal pour tirer le maximum de ressources de l'État. Et je pense que c'est légitime. Encore une fois, les États ont la pleine souveraineté sur leurs sources naturelles. Donc, tant que les entreprises qui sont établies en RDC minière ne feront pas de pertes, et donc je ne vois pas pourquoi ils vont quitter la RDC parce qu'une taxe a été triplée.
Monsieur Mabouli Ayenga, vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Bukavu au sud de Kivu.
Robert Bahomet, Bukavu au sud de Kivu. Je pense que déclarer certaines substances minérales stratégiques comme le cobalt, le germanium et la colombo-tantalite ne devrait pas ipso facto conduire les ministres des Mines à tripler leur taux de redevance de 3,5 à 10%. N'est-ce pas que trop d'impôts tuent l'impôt? En fait, cela ne pourrait pas contribuer tel que l'on s'attend à l'amélioration des recettes de l'État. En analysant bien les choses, cette situation risquerait de favoriser plutôt la fraude et autres magouilles de ces substances minérales au détriment du trésor public. Il serait alors mieux que le gouvernement revoie à la baisse cette redevance à travers un taux normal, raisonnable et équilibré qui jouerait et à l'avantage des États et à l'avantage de ses partenaires opérant dans le secteur du cobalt et du coltan.
Monsieur Mabouli Ayenga.
La question que je peux demander, c'est quoi le taux équilibré qu'il pense que ça, c'est possible? Encore une fois, si nous avons dit que le métal est stratégique, laissez-moi revenir à deux, trois petits exemples rapidement. Lors de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont construit ce qu'ils appellent les Jeeps. Et les Jeeps, les pneus des Jeeps, avaient deux composantes essentielles. C'était le caoutchouc et le fer, les tiges de cobalt. Ces deux produits venaient en grande partie de la RDC. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un danger de s'alimenter de cette ancienne colonie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place, ils avaient déjà en place ce qu'ils appellent le DLA, le Defense Logistics Agency. Elle avait pour rôle de stocker des matériaux qu'ils considéraient comme stratégiques pendant plusieurs années pour éviter de dépendre ou d'avoir des ruptures. Donc ça, c'est un cas. Dans le cas du germanium, lorsque la Gécamine envoyait ses minerais à Hoboken, il y avait des sous-produits. Dans ces sous-produits, Hoboken donc, avait mis en place une usine, avait en fait envoyé le tout à Kokkola en Finlande auprès de OMG qui faisait le traitement de germanium. Et tout ça, ça a fait que nous, on n'a pas gagné d'argent du tout. En ce qui concerne le coltan, ben, c'est clair. Si aujourd'hui les pays voisins sont en train de mettre des compagnies et tout ça, c'est que ça rapporte. Donc il faut regarder, il n'y a pas à avoir peur que ça va faire la fraude. Nous sommes des Africains, nous sommes dans un pays africain. Nous pouvons travailler tous ensemble. Donc si aujourd'hui l'usine peut être mise au Rwanda ou à Kuala Lumpur, où est le problème lorsqu'on peut... Moi je trouve que c'est encore plus facile que ce soit au Rwanda et on puisse discuter. À ce moment-là, on sait très bien voir quelles sont les quantités en fait qui sont consommées de l'autre côté et qu'on prouve d'où ça vient. Donc il n'y a pas à avoir peur, ça ne va pas vraiment... D'après moi, il n'y a pas on le voit comme Israël a dit, la souveraineté, c'est dans le cadre de la vision africaine. Il faut que nous travaillions et mutualisons au niveau africain de nos exploitations de minerais et tirer meilleur profit. Donc je n'ai pas vraiment à m'alarmer là-dessus, dans ce sens que c'est beaucoup, parce que bon, il faut voir où est finalement le taux exact.
On a toujours reproché, n'est-ce pas, à la RDC de focaliser son attention sur un seul secteur, d'où la pression fiscale que certains miniers, n'est-ce pas, dénoncent. Et pourquoi n'est pas, à votre avis, pourquoi n'est pas élargir l'assiette fiscale au lieu de se concentrer uniquement sur ces minerais que vous considérez comme étant stratégiques?
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque vous entendez aujourd'hui la politique, c'est la politique de diversification. Mais on tire à boulet sur le ministère des Mines. Le rôle du ministère des Mines, il est bien précis, c'est d'augmenter la production minière. Ce n'est pas le ministère des Mines qui touche les revenus, c'est au niveau du ministère des Finances. C'est à un autre département, à un autre ministère, que revient la mise en place du plan stratégique. Et nous, nous sommes une composante. Aussi bien l'agriculture, aussi bien les télécommunications, nous apportons tous nos revenus au ministère des Finances, qui ensuite, avec le plan, fait un plan. Il faut un plan global, il faut un plan diversifiant l'économie, il faut des chaînes de valeur, de transformation qui soient mises en place. Mais tout ça, c'est fait au niveau du gouvernement, avec un plan général, et le ministère des Mines apportera certainement son concours.
Maître Elodie, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kinshasa.
C'est Guy Kisengi à Tampas depuis la commune de Lemba à Kinshasa. C'est une bonne décision de voir la RDC augmenter ou tripler les taux de redevance de ces minéraux. Mais la question qui mérite d'être posée est celle de savoir à qui profite cette augmentation si la situation sociale de la population demeure précaire. À savoir que ceux-ci ne sont pas les premiers minéraux qui connaissent une augmentation des prix sur le marché. Car nous avions vu autrefois le baril du pétrole prendre de l'ascenseur sur le marché international sans changer la situation sociale de la population congolaise. Ceci revient à dire que cette augmentation du taux de redevance de ces matières premières ne profitera pas à la population congolaise, mais plutôt à certains individus qui détiennent une portion du pouvoir.
Maître Galoudi.
Je crois que notre compatriote qui a appelé de Lemba a raison sur le fait que on ne sent pas l'effet ou les résultats de toutes ces mesures dans les quotidiens des populations congolaises. Mais ça, c'est une autre question. C'est une question de bonne gouvernance qui se pose, mais qui ne peut pas empêcher à un État souverain de prendre des mesures aussi légitimes. Donc là, il y a une question de bonne gouvernance de la part de ceux qui assument les charges de l'État. Et donc, ça n'a rien à voir avec une mesure qui a été prise par le gouvernement. Mais non, ce qui fâche, c'est que ce qui en pâtit, c'est effectivement la population, parce que ça va freiner les investissements, ça va faire une mauvaise publicité sur le pays, ça va faire une mauvaise publicité de notre pays, parce que le secteur minier, le monde minier, c'est un petit monde où tous les grands se parlent, se communiquent entre eux, encore que dans le contexte de notre pays, les plus grands fuient et expliquent cette fuite par par beaucoup d'éléments, le climat des affaires, l'insécurité, les taxes, ça rentre dans le climat des affaires. Donc il y a toutes ces questions, tous ces aspects. Et donc ce qui reste, ce sont les plus résistants. Et s'il faut encore endurcir les mesures et faire assez qu'ils partent aussi, vous comprenez que, effectivement, c'est la population, c'est les communautés qui souffrent, parce que vous verrez que dans les coins, dans les régions où il y a des grands projets miniers, comme aujourd'hui en province orientale, je parle de l'ancienne province orientale, Doko, Durba ou Kibaligod se trouve, vous sentez qu'il y a la vie, il y a les populations qui vivent, il y a la circulation des biens et services, il y a l'emploi qui a été créé, il y a tous ces aspects positifs sur le plan social. Or, si ils partent, ça va être le grincement des dents pour ces communautés-là, qui se trouvent maintenant bénéficiaires par la présence de ces investisseurs et non par ce que ces sociétés-là payent dans les trésors, payent dans les caisses de l'État, parce que finalement, suite aux certaines questions qui peuvent être évoquées, notamment de la mauvaise gouvernance, ils ne se sentent pas bénéficiaires de ce qui est payé dans les caisses de l'État. Et donc, c'est ça l'autre aspect négatif de ces mesures-là. Donc, c'est pourquoi moi, je pense que la meilleure façon d'analyser la question, c'est que la question soit mise sur une table et que lorsqu'une société minière se sente lésée par une mesure ou une autre, elle pose le problème. Elle montre les études qu'elle avait faites parce que le projet minier, ce n'est pas comme aller dans un champ, vous cultivez, vous dites non, voilà. Non, ce n'est pas comme aller au marché, vous achetez 100 kilos d'arachide, vous allez revendre à autant. Non, il y a des études de faisabilité qui sont faites et c'est sur base de ces études de faisabilité là qu'on peut négocier une ou une autre mesure qui a été prise pendant que l'investissement est en cours. Et là, je rappelle que ce sont des investissements des dizaines d'années. Et donc, c'est là que moi, je pense que d'une de part et d'autre, il doit y avoir cette bonne foi de revenir sur la table et de voir l'impact que la mesure peut avoir sur les études de faisabilité qui avaient été faites par une société ou une autre, sur ses projections et sur toute autre question qui peut surgir et qui peut impacter négativement l'investissement.
Merci, madame. Monsieur Israël Moutala, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu, une fois de plus, le Sud Kivu.
Abamungu Balibouza de Bukavu. Déclarer stratégique certains minéraux est une décision noble de la part du gouvernement congolais, de même que tripler les taux de redevance des mêmes minéraux. Le grand problème reste l'impact qu'aura cette décision sur la vie des Congolais moyens, sans route, sans école viable, sans eau potable ni électricité, sans sécurité ni assurance maladie, pourtant propriétaires des minéraux dits stratégiques. Pour moi, il n'y a que les plus riches du pays qui s'enrichiront davantage au dos de nous autres pauvres citoyens de la classe inférieure. Combien de kilomètres de routes compte asphalter le Premier ministre grâce à cet excédent budgétaire? Quel impact aura cette décision dans les budgets?
Oui, ça c'est une chanson qu'on entend tous les jours. N'est-ce pas que les gens ont raison, n'est-ce pas, d'exprimer ce genre d'inquiétude, Israël Moutala?
Non, il a parfaitement raison. Le défi de la bonne gouvernance se pose avec acuité dans notre société. On ne va pas se voiler la face. Ça veut dire que quand vous comparez un pays comme le Botswana, qui a su impulser un développement qualitatif et quantitatif dans son pays, grâce à un seul minéral, le diamant, on peut se poser de questions. Ça veut dire que la problématique de la bonne gestion de nos ressources naturelles et surtout des ressources tirées de la manne financière tirée là-bas. Et voilà. Donc, il faut d'abord, il y a une première étape, c'est que l'État puisse tirer le maximum de profit de nos ressources naturelles. On est d'accord. Mais il y a un autre défi qui va suivre, c'est la gestion. La gestion, à quoi est-ce que sera affectée cette manne financière? Ça, c'est une autre question importante qu'il faut soulever. On a de besoins colossaux en termes d'infrastructures. Et donc, on a vu que l'État, en même temps que ses revenus croissaient au fil des années, il a multiplié aussi, dans la même proportion, son train de vie. Donc, tant qu'on ne va pas, à un moment, stopper le train de vie de l'État, ça veut dire les rémunérations, les frais de fonctionnement, tant qu'on n'aura pas stoppé à un niveau raisonnable, au bénéfice du poste investissement, on ne s'en sortira pas. Donc, il faut absolument que l'État puisse stabiliser son train de vie pour qu'il puisse dégager des ressources suffisantes pour le poste investissement. Un chiffre, cette année-ci, le ministère des Infrastructures a 20 millions de dollars comme budget d'investissement. Bon, dites-moi, avec 20 millions de dollars, c'est moins de 1 million de dollars par province. On en a 26. Dites-moi, avec cette somme-là, en ressources propres, que peut-il faire, ce ministère-là? Rien du tout. Donc, il va miser sur quoi? Sur des partenariats public-privé Il va miser sur quoi? Sur des coopérations bilatérales et multilatérales. Donc, on a un grand travail à faire sur la gestion, sur l'affectation des ressources. Mais d'abord, le premier combat, c'est celui-là. D'abord, on accroît la pression fiscale, on tire un maximum de revenus, et ensuite, on travaille sur la bonne gouvernance, sur qu'il n'y ait pas de corruption, de détournement, et que cet argent aille justement à la construction des hôpitaux, aille, pour moi, à la construction des écoles et des routes, donne du courant aux Congolais. Donc, il faut absolument que nous créions les conditions d'épanouissement de notre population. Parce qu'une population qui n'est pas bien soignée n'est pas productive. Une population qui n'est pas bien éduquée n'est pas productive. Et donc, il faudrait absolument que les ressources issues du secteur minier, notamment, puissent être affectées justement au projet de développement.
Voilà, là nous sommes déjà dans les solutions. Et donc, vous prenez que l'État puisse stabiliser, n'est-ce pas, son train de vie. Mais il y a des experts qui pensent qu'il faut que l'État puisse aller au-delà de ça, n'est-ce pas, créer une sorte de fonds stratégique, n'est-ce pas, pour les générations futures. On sait que les pays comme le Tchad ont tenté cette expérience, mais qui malheureusement n'a pas produit les résultats escomptés. Comment vous réagissez par rapport à cette proposition?
Non, moi je pense que pour le moment, il n'y a pas d'argent qu'on doit mettre de côté. Pourquoi? Écoutez, l'argent que vous mettrez de côté, c'est l'argent, par exemple, pour construire une route.
Les fonds souverains.
Et quand vous construisez une route à quelque part, cette route-là, elle va créer de la richesse. On n'a pas encore atteint ce niveau de développement où on peut se permettre de mettre de l'argent de côté. On met de l'argent de côté pour de mauvais jours. Mais nous sommes en plein mauvais jour pour les générations futures. D'abord, les générations actuelles meurent. Et vous voulez déjà penser aux générations futures. Non, sauvez d'abord les générations actuelles. Quand les générations actuelles auront de quoi à éduquer leurs enfants, à les soigner, à les vêtir, à les éduquer dignement, à donner à manger une nourriture saine, abondante et variée. Quand ils auront de quoi mettre un toit sur eux, voilà, ça va justement aider à ce que les générations futures soient fortes. Mais vous n'allez pas laisser les gens aujourd'hui dans la pauvreté, dans la misère, et espérer qu'ils vont faire des enfants forts demain. Non, il y a urgence. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans un pays extrêmement pauvre. Et donc, je respecte cette idée de mettre un fonds pour les générations futures. Non, d'abord sauver les générations actuelles. Et ça passe par nos besoins colossaux en termes d'infrastructures. Écoutez, on peut ouvrir une école, par exemple, à Boudjala, qui va coûter 100 000 dollars. Pourquoi on va mettre 100 000 dollars qui va chômer pour aider des Congolais? Non, on estime qu'en créant les conditions de création des richesses aujourd'hui, demain nous serons plus forts, demain nous serons plus riches et les générations futures vont s'en sortiront.
Monsieur Babouya, nous allons conclure parce que nous sommes à la fin de l'émission. Et, obnubilé par, n'est-ce pas, cette embellie du cobalt, est-ce que le gouvernement congolais ne va-t-il pas oublier que le développement passe aussi par la promotion de l'agriculture?
Tout à fait. Quand j'écoute ce que mon prédécesseur vient dire,
on n'a pas que le
secteur minier. On a le secteur agricole, on a le secteur industriel. Il n'y a pas que le secteur minier qui peut rapporter dans les caisses de l'État. Il y a le café, il y a le thé, il y a le bois, il y a les télécommunications, il y a l'agriculture, il y a toutes ces activités.
Malheureusement, rien n'est fait par le gouvernement congolais pour promouvoir, n'est-ce pas, ces autres secteurs.
Ben, je crois que quand j'assiste à certaines réunions, il y a le plan national qui est en train d'être réfléchi sur le plan stratégique national. Donc, les réflexions sont faites. Il y a des activités qui sont mises en place. Elles ne sont peut-être pas suffisantes par rapport aux besoins, mais il y a une volonté d'aller et d'améliorer le quotidien du Congolais. Ça, je crois que les acteurs politiques congolais le disent à chaque fois qu'on veut améliorer la situation. Maintenant, il faut qu'on fasse ce cadre qui est en gestation. Et lorsque vous voyez avec la situation politique aujourd'hui, tous les candidats proposent donc des plans qui vont aller dans le sens d'améliorer les conditions des Congolais de demain.
Merci. Maître Elodie Mouzigiroi, votre conclusion.
Donc moi, ce que je peux dire, c'est de saluer la mesure, mais que l'État fasse des efforts dans la bonne gouvernance. Parce que si cet argent qui est payé, qui va être payé, va servir à améliorer les infrastructures pour que les sociétés minières qui sont en République démocratique du Congo puissent avoir de meilleures conditions d'investissement, et ça réduirait leurs coûts, parce que vous savez qu'il y a des sérieux problèmes.
Merci,
de
madame.
Mais si c'est de l'argent qui va servir à...
Merci, madame. On a compris. Merci. Isaël Moutala, votre conclusion.
Ma conclusion, la bonne gouvernance dans les mines. Ma conclusion, c'est que le mine, c'est vrai, mais absolument, il faut renverser le paradigme. Donc, c'est une économie qui dépend de termes de l'échange, ça veut dire que de fluctuations de cours de matières premières, mais une économie diversifiée.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci, c'est jeudi pour un autre débat.